France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le journaliste et écrivain Jean-Paul Kaufmann pour son volume de mémoire intitulé « L'accident » paru aux éditions des Équateurs. Bonjour Jean-Paul Kaufmann.
Bonjour.
Je me demandais si vous seriez d'accord avec moi sur le fait que « L'accident » est bien un volume de mémoire. Est-ce que votre modestie légendaire trouvera peut-être à en souffrir de cette idée que ce livre puisse être des mémoires ?
Oui, enfin, des mémoires qui s'arrêtent quand même à l'âge de 11 ans. Donc, cette période ne touche que mon enfance. Ça s'arrête à 11 ans, avant le départ à l'école secondaire, qui a été pour moi un grand malheur.
Jean-Paul Kaufmann, vous avez été journaliste et un journaliste dont toute la France a scandé le nom alors que vous étiez otage à Beyrouth pendant la guerre civile libanaise. Et ensuite, après votre libération, obtenue le 4 mai 1988, vous avez débuté une œuvre d'écrivain ancrée dans le voyage et le récit de voyage. Voyage à Bordeaux, voyage en Champagne, voyage aux îles Kerguelen, voyage dans l'île de Sainte-Hélène, voyage dans un tableau de Delacroix, voyage dans une maison des Landes, voyage en Courland, voyage sur la Marne, voyage vers la bataille d'Eylau ou voyage à Venise. Autant de livres qui viennent très récemment d'être suivis par celui dont il est question aujourd'hui, L'accident, dont le titre fait référence, en première instance, au tragique accident de la route survenu le 2 janvier 1949, au cours duquel 18 footballeurs du village de Cornu, près de Rennes, trouvèrent la mort. C'est dans ce village de Cornu, près de Rennes, que vous avez grandi, Jean-Paul Kaufmann.
Oui, un village, en effet, avec un nom un peu burlesque, Cornu. J'ai dû me battre pendant toute mon enfance en but aux plaisanteries sur ce nom de Cornu, les plaisanteries les plus lourdingues, et il fallait défendre un peu l'honneur du village. Alors, il y avait trois problèmes, trois impensés, je pourrais dire, au sujet de ce village, le nom Cornu, qu'il fallait assumer, cet accident dont on ne parlait jamais, on y pensait toujours, et aussi quelque chose qui est tout à fait particulier, le clocher. Le clocher est cette église monumentale qui ne correspond absolument pas à la taille de ce village. Il y a toujours eu une sorte de dissonance, de décalage entre cette église monumentale, cyclopéenne, et ce village. Donc, ces trois impensés, ça a été un peu ces trois choses-là qui ont traversé mon enfance.
Au moment de votre naissance, dans les années 40, à quoi ressemble ce village ? On parle d'un village de quelle taille, de combien d'habitants ? Qu'est-ce qu'il y a comme commerce et comme activité ? Ça ressemble à quoi pour les auditrices et les auditeurs ?
Eh bien, évidemment, je raconte un peu l'accident. C'est l'histoire d'un continent perdu, c'est-à-dire un monde de l'après-guerre, un monde marqué par la ruralité. Et il faut savoir que dans ces années-là, d'après-guerre, au fond, les gens, qu'est-ce qu'ils ambitionnaient de retrouver les années 1930, hein ? Et ces années 1930 étaient exactement les mêmes que celles des débuts de la Troisième République. Donc c'était un monde tout à fait immobile. J'ai baigné dans ce monde des comices agricoles, des noces de campagne qui durent 3 jours, de cette croyance au surnaturel. Et nous ne discernions pas à cette époque-là que les choses allaient changer dans les années 60. On pouvait discerner les premiers soubresauts, le remembrement, la mécanisation, mais c'était un monde encore où la paysannerie existait et les agriculteurs dans les années 60 ont succédé aux paysans. Je fais partie évidemment d'un de ce qu'on appelle aujourd'hui les boomers, pas particulièrement fier de l'être, mais j'assume, c'est une fonction, un état, une condition dont on ne se soigne pas. Et c'est quand même un privilège, parce que je crois que ceux qui ont vécu entre 1900, alors on peut en discuter évidemment, ceux qui ont vécu entre 1940 et 1955, je crois, ce sont des privilégiés. Je crois qu'ils ont aperçu l'ordre ancien, le vieux monde. Bon, ils ne savaient pas qu'il était en train de s'effondrer, mais j'ai fait partie de ce monde-là. Et le démontage général a eu lieu, disons, au milieu des années 60. Apparaît l'élection au suffrage universel, les hypermarchés, la société de consommation. Mais dans ces années 50, évidemment, on ne percevait rien de ce monde-là qui allait changer.
Jean-Paul Kaufmann, l'accident donc se déroule pas justement entièrement dans le village de Cornu, mais se base sur vos souvenirs d'enfance, vous l'avez dit, jusqu'à l'âge de 11 ans. Mais néanmoins, on va revenir sur d'autres formes d'accidents. Pour vous, comment est-ce que le livre commence? À quel moment vous vous dites « Ah, je veux écrire sur cet accident, je veux revenir à Cornu » Est-ce que c'est à l'occasion d'une visite, d'un retour dans ce village que vous avez eu cette idée-là? Ou ce désir était toujours là?
Non, j'y revenais souvent. En vérité, pourquoi ai-je voulu parler de l'accident, de cet accident-là? Évidemment, je crois qu'un bon titre, c'est un titre ambigu. Évidemment, il fait allusion à cet accident dont vous parliez, l'accident de Martigny-Verchoux qui a causé la mort de 18 jeunes hommes de la commune. Mais évidemment, il fait allusion aussi à mon accident libanais. Alors, comment relier ces deux choses-là? Moi, j'ai connu donc cette tragédie de 3 années au Liban. Et qu'est-ce qui m'a permis, disons, de résister? C'est mon enfance. De quelle façon? Eh bien, pendant ma vie diurne, je vivais dans la peur, dans la terreur, et je me reconstituais grâce à cette vie nocturne. C'est-à-dire que je n'ai fait aucun cauchemar pendant ces 3 ans de captivité. Vous voyez, l'inconscient humain est très, très bien fait. Et les cauchemars ont commencé après ma libération. C'est-à-dire que on peut qualifier cela d'un travail de Pénélope à l'envers. C'est-à-dire que pendant ma vie nocturne, j'échappais complètement à la condition dans laquelle je vivais, et à mes geôliers et à mes ravisseurs. Donc, c'est par une sorte, j'allais dire, de dette, de gratitude, que j'ai écrit ce livre. Je n'avais pas vécu cette histoire, je crois que je n'aurais jamais écrit sur cette partie heureuse de ma vie, parce que ça a été véritablement un moment particulièrement heureux, une sorte d'été perpétuel. Les ennuis ont commencé après, à l'âge de 11 ans, la préadolescence, je ne sais pas comment on peut qualifier cela, les années de collège, les années de pensionnat qui ont été pour moi une expérience très, très, très malheureuse. Donc je suis redevable à mon enfance, oui, de m'avoir protégé, de m'avoir défendu de ce moment que j'ai vécu pendant le Liban.
Jean-Paul Kaufmann, dans l'accident, vous venez d'évoquer justement vos années libanaises et vous racontez que justement vous échangez avec vos camarades de détention à propos de vos rêves. Et ça, c'est très touchant d'imaginer ces 3 hommes enfermés
qui se racontent leurs rêves.
Oui, qui se racontent leurs rêves.
Oui, je dirais qu'il est dépiote, littéralement. Essayant de leur trouver une signification, c'est tout à fait paradoxal parce que moi, quand dans un livre, je lis l'auteur, se réfugiant dans une sorte de métaphore, évoque des rêves, j'arrête le livre. Je trouve ça trop facile. Mais en même temps, ces rêves-là m'ont sauvé. Alors, c'est un chaos, le rêve. Il faut essayer de lui trouver une cohérence. Et donc, une bonne partie de notre journée se déroulait à essayer de trouver une signification à ces rêves. Et ça a occupé un bon moment parce que, j'ai pu lire quelques livres pendant ma détention, mais très peu. Et je dois dire que, en effet, aussi les livres m'ont sauvé, les rêves m'ont sauvé, quelques livres aussi m'ont sauvé.
Et l'activité onirique, en quelque sorte, venait compenser la vacuité des journées, en fait.
Oui, et puis surtout la terreur.
L'angoisse.
Parce que, au fond, la finalité d'un otage, c'est d'être exécuté. Et puis, il y a toujours cette incertitude. Il n'y a pas d'échéance. C'est-à-dire qu'un prisonnier, j'allais dire normal, eh bien, par le jeu des remises, il sait à peu près lorsqu'il va être libéré, délivré. Un otage, il ne sait pas. La porte de la cellule qui s'ouvre, ça peut être la libération ou la mort. C'est la raison pour laquelle, le dernier jour de ma libération, moi je pense que je vais sortir de ma cellule pour être exécuté. C'est-à-dire que je vais être content, mais ravisseur, et c'est beaucoup plus facile d'exécuter quelqu'un qui part dans de bonnes conditions et qui pense qu'il va être libéré. Je pense que j'ai été aussi avec des otages juifs libanais. Je pense qu'ils sont allés à la mort confiants. On leur a dit qu'ils allaient être libérés et ils ont reçu une balle dans la tête. Donc je m'attendais un peu à un scénario de ce genre-là, et je n'étais absolument pas rassuré lorsque je suis sorti ce 4 mai 1988 de ma cellule, évidemment avec cette révélation du monde extérieur, des odeurs de l'Orient. Mon livre, c'est un livre aussi sur les odeurs qui ont joué un rôle très très important dans mon existence.
On va y venir justement, c'est l'aspect sensoriel du récit.
Ces odeurs là, épicées de l'Orient, et puis cette odeur un peu parfois d'égout là que vous allez respirer fugitivement, et puis vous êtes emmené dans une voiture et vous savez pas vers quelle destination vous allez. Donc ce jour-là, j'ai eu très peur en effet.
Sur la route de l'aéroport à Haldé, vous voulez dire hein,
quand... Oui. Non, et ça, c'est le premier jour. Ouais. C'est sur la route de l'aéroport. Moi, je raconte, en effet, dans ce livre, le premier et le deuxième jour. Ouais. Le premier jour, en effet, où les ravisseurs qui avaient, je pense, autant de la trouille que nous, ils ne savaient pas trop faire, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire de nous. Et donc, voilà, le premier jour, j'ai été emmené avec Michel Seurat dans ce terrain vague. Et je pensais que c'était fini. Le saut dans le vide allait se produire pour moi. Le dernier jour, ça a été un peu la même chose. Bon, il est évident aussi que ce livre aussi est traversé par cet accident libanais, mais il ne constitue pas l'essentiel de ce livre, en effet.
Non, bien au contraire, puisque on va revenir justement à ce village de Cornu, si vous le voulez bien, et on va écouter une petite archive à ce propos.
Cornu, souvent prête à rire, mais au départ on s'écrivait C-O-R-N-U-Z, c'est un vieux mot celtique, pour finir par Cornu, en deux mots, C-O-R-P-S-N-U-D-S.
Et tout cela parce que vous descendez d'une population qui s'appelait les Carnutes.
Exactement, une peuplade ancienne du 6e siècle, on pense qu'à l'origine ça vient de là.
Il y a une autre chose qui surprend ici, c'est l'église. L'église qui ressemble curieusement à une église russe avec son clocher en bulbe.
Ah oui, elle ne manque pas d'originalité dans la région bretonne, il faut dire, à tel point d'ailleurs que les personnes les plus âgées racontent que pendant la guerre, l'armée adverse, les Allemands, a fait un film tout simplement pour faire croire qu'ils arrivaient aux alentours de Moscou. Donc à vrai dire, notre église ressemble à une église moscovite.
Jean-Paul Kaufmann, nous venons d'entendre Juliette Soulabaille, animatrice à l'époque de la Maison des Jeunes de Cornu en Bretagne, nous racontait l'histoire de son village au micro de France Inter le 5 septembre 1980. Jean-Paul Kaufmann, vous la connaissez bien, Juliette Soulabaille, puisque c'est des personnages de votre livre.
Oui, j'avais reconnu sa voix. Alors, elle évoque en effet plusieurs choses dont je parle dans mon livre, et notamment ce film qui aurait été tourné par les Allemands, avec en toile de fond ce clocher moscovite, ce clocher orthodoxe. Bon, j'ai essayé de faire un sort à cette légende qui est assez mystérieuse, assez énigmatique, mais la raison, vous voyez, elle insiste beaucoup sur cette église monumentale qui fait l'originalité de mon village. Et je raconte d'ailleurs dans ce livre une interview avec Julien Gracq. Et Julien Gracq, à son tour, m'interroge et me demande « Mais d'où venez-vous » Alors, imprudemment, je lui dis « Je suis originaire d'un village que vous ne connaissez certainement pas, Cornu. » Ah, oh, mais il le connaissait très bien. Il m'a dit pas seulement le village, mais l'église. Alors, je lui en veux un peu de n'avoir pas parlé dans les carnets du Grand Chemin de cette église et puis de cette commune tout à fait particulière. Je pense que c'était le chemin pour aller à Saint-Florent-le-Vieil. Il passait très fréquemment à Cornu. Et donc, voilà, c'est l'originalité de cette église qui, véritablement, surgit dans le paysage comme une sorte d'apparition. Ça ressemble un peu au Mont-Saint-Michel. On voit surgir dans cette campagne rennaise cette église sur un promontoire et c'est vraiment quelque chose qui frappe tout visiteur, tout touriste.
Mais Jean-Paul Kaufmann, vous racontez l'histoire de cette église et de son architecte qui en a construit évidemment plusieurs, qui a construit beaucoup de bâtiments en Ille-et-Vilaine et en toute la Bretagne. Mais cette histoire de ce film est assez troublante parce que il y a quand même des témoins qui certifient que ce film a bien été tourné. La légende voudrait que ce soit Rému même qui ait dirigé ce film de propagande allemande où on voyait des gens battre le blé en Ukraine, comme si cette église était tout d'un coup devenue orthodoxe, ce qui semble effectivement complètement improbable.
Alors, le livre que j'ai écrit, c'est un livre aussi sur ce que je pourrais appeler la distorsion de la mémoire ou la maladie du souvenir, c'est-à-dire que les gens sont persuadés d'avoir vu tel personnage alors que c'est absolument pas avéré. Vous voyez, de la même façon, je dis que mon premier souvenir d'enfance, c'est cet accident de Martigny-et-Ferchaux. À cette époque-là, je dois être âgé de 4 ans et demi, 5 ans, et je suis persuadé d'avoir été témoin de cette soirée du 2 janvier 1949, un village de Haute-Bretagne, un soir d'hiver, noir de monde, et j'arrive de Rennes avec mes parents, et quelqu'un à la portière de la voiture, cette phrase, « Les joueurs de football, ils sont tous morts ». Je suis persuadé de l'avoir entendu, mais aujourd'hui j'en suis beaucoup moins certain. À force d'avoir été raconté, je me pose aujourd'hui en effet la question. De la même façon, en effet, ce film qui aurait été tourné avec en toile de fond cette église, avec Rému, j'ai mené mon enquête parce que c'est aussi un livre d'enquête que j'ai essayé d'écrire. Donc j'ai interrogé un certain nombre d'historiens du cinéma, de biographes, de Rému, et il est certain que c'est improbable que Jules Rému, on est plus habitué en 1942 à le voir, disons, sous le soleil de Provence que dans la grisaille d'un village de Haute-Bretagne. Qu'est-ce que Jules Rému viendrait faire dans ce village, tourner un film en plus de ça pour les Allemands? Il est certain que si ça avait été le cas, il aurait été vraisemblablement inquiété à la libération. Ça n'a pas été le cas. Donc je crois que c'est une histoire, encore une fois, qui a été fantasmée. De toute façon, on n'a jamais retrouvé ce film. Et 1942, Rému tourne 4 films, dont Les Inconnus dans la maison de Decoing. Alors, que venait-il faire à Cornu? Là, je me pose toujours la question, est-ce que les gens ont rêvé? Vous voyez, il y a aussi une autre anecdote qui a été un objet de scandale, que j'intitule dans mon livre « L'Esclandre ». Un curé qui dénonce son abbé dans la grand-messe solennelle du dimanche, et personne n'est d'accord sur les termes qui ont été prononcés par ce curé. Sur la mémoire, quelque chose qui me paraît extrêmement troublant, très troublant.
Jean-Paul Kaufmann, vous venez de prononcer le nom de Paul Brion, ce curé qui est aussi un des personnages importants du roman et dont Yves Mabin...
Ce n'est pas un roman.
Pardon, oui, c'est vrai, c'est pas un roman. De vos souvenirs, de ces mémoires, cet ensemble d'accidents, dont Yves Mabin, aussi un autre personnage, votre meilleur ami d'enfance de l'époque.
Connu.
Oui, qui était poète lui-même, écrivain, et qui travaillait au ministère des Affaires étrangères, dit que ce Paul Brion méritait l'enfer. Si très certainement quelqu'un devait aller en enfer, c'était lui. C'est aussi très surprenant de voir comment, finalement, ces années d'enfance cristallisent aussi des souvenirs, des haines qui se poursuivent bien des années après. Et l'image qu'on conçoit de ces gens est finalement assez figée dans ce qu'ils ont pu avoir à un moment, peut-être, de pire. Et qu'il faut ensuite reconstituer un peu une forme de réalité, d'aller chercher au-delà de ce souvenir marquant qui ils ont pu être en réalité.
Alors, je pense qu'il a quand même été un peu dur hein, avec... ce curé Brion, oui, Yves Mabin, qui était très catholique, me disait souvent, je pense que l'enfer n'existe pas, ça existe peut-être, mais il n'y a personne, mais s'il y a quelqu'un qui doit y être actuellement, c'est Paul Brion. Je pense que il a été très sévère. Alors, en effet, c'est un curé, disons, à l'ancienne, un curé des années 50, qui, en même temps, discerne déjà, aperçoit déjà dans l'édifice catholique les premiers signes d'un délabrement. La pratique religieuse des fidèles n'est plus la même. Et il s'accroche un peu à cet ordre ancien. Mais moi, je lui voue en même temps une très grande gratitude. D'abord, il m'a appris le latin. Et à l'époque, le latin bénéficiait d'un, j'allais dire, d'un coefficient très intéressant. Et j'ai toujours eu en latin un peu d'avance grâce à lui. Et puis surtout, c'était un prêtre qui avait le sens du faste, du grandiose. Il y avait ce contraste, et c'est ça qui est paradoxal aussi dans ce village des années 50, c'est-à-dire... cette vie maussade, un peu revêche, un peu triste aussi, et puis le contraste avec tout cet apparat, cette solennité, j'allais dire cette élévation. Alors, c'était un prêtre qui, pour lui, l'homme était corrompu, le mal existait, et nous étions tous marqués par le péché originel, mais je crois que il fallait racheter quand même auprès de ses fidèles cette image terrible de la religion par ses offices interminables, certes, mais là on est dans la période d'avant Vatican II, c'est-à-dire qu'on vit encore dans une église du Concile de Trente, hein, vous voyez, là où les justement tous ses sens sont mis à contribution. Alors, je dis justement dans mon livre que l'éveil de ces sens-là, c'est la boulangerie paternelle, mais aussi cette église. L'encens, l'odorat, l'olfaction, l'orgue, et puis aussi toute cette ces fêtes Dieu, cette solennité, en effet. Et lui, il avait un sens absolument incroyable, j'allais dire, de la mise en scène. Où avait-il appris cela ? J'ai enquêté évidemment aussi sur ce personnage. Je suis même allé à Rome, au grand séminaire français de Rome, où il avait vécu pour savoir exactement quel était son passé. Alors, il a peut-être appris ce sens de l'apparat, de la mise en scène à Rome dans ces années-là. Mais il reste dans cette figure un aspect, j'allais dire, énigmatique. Pourquoi ce prêtre, qui est un professeur de philosophie au grand séminaire de Rennes, c'est quand même pas rien, en 1945, il est nommé curé d'une cure de seconde classe, donc à Cornu. Il y a quelque chose quand même qui m'échappe. Alors j'ai essayé de savoir aussi aux archives diocésaines pourquoi ce décalage, et les archives diocésaines ne seront accessibles que 120 ans après la mort de cet ecclésiastique-là. Donc, Impossible de savoir ce qui est arrivé au curé Brionne.
Jean-Paul Kaufmann, vous écrivez « La figure de Satan n'a cessé de rôder dans ma vie d'enfant ».
Oui, c'est vrai. C'est vrai, la figure du mal, la figure de Lucifer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et c'est quelque chose qui est présent perpétuellement. Et cette figure diabolique, je pense qu'elle est en même temps toujours présente. Moi, j'y crois toujours. Je pense que le démoniaque est toujours présent dans ce monde. Cette espèce de fatigue générale, aussi cette façon de tenir le faux pour le vrai, je crois que elle est toujours là, cette figure diabolique. Elle a traversé mon enfance, mais elle est toujours là.
Jean-Paul Kaufmann, vous venez d'évoquer la boulangerie, qui est la boulangerie paternelle, là où vous vous éveillez au sens, où justement vous dites « Chez moi, l'olfaction commande tout. Sentir signifie visualiser, entendre, savourer, toucher. Toucher, se mettre dans la peau du témoin. » Est-ce que vous êtes un peu là aussi le témoin de votre propre enfance à travers cette relation au sens quand vous racontez vos souvenirs de la boulangerie paternelle ?
Oui, je crois que c'est dans le fond d'île que s'est déroulé mon apprentissage sensoriel. Et je pense que l'atmosphère d'une boulangerie, alors évidemment, là aussi, c'est un peu paradoxal, peut amener au métier de journaliste. Parce que je pense que on n'insiste jamais assez dans ce métier sur l'importance du corps. Quand vous arrivez en reportage, d'abord un reportage, je pense aussi que c'est un corps à corps. Quand vous arrivez en reportage, c'est par ces cinq sens, ces cinq capteurs, que finalement vous allez prendre connaissance, j'allais dire d'abord le témoin qui apparaît pour la première fois, vous allez lui serrer la main, vous allez entendre le son de sa voix, l'odeur de sa maison. Donc déjà, vous vous faites une idée du reportage et de ce témoin-là. Alors, le modèle du journaliste, pour moi d'ailleurs, ce n'est pas un journaliste. Pour moi, le modèle du journaliste, c'est un policier, c'est Maigret. Maigret, parce que justement, c'est quelqu'un qui met tous ses cinq sens, j'allais dire, qui fonctionne à plein régime. Vous voyez, le commissaire Maigret, lorsqu'il est face à une histoire policière, vous voyez, il absorbe les sons, les odeurs, ce qu'il voit, un peu comme une éponge. Et on a l'impression qu'il est passif. On a l'impression qu'il est même, un peu... Il y a presque une innocence. C'est un policier miséricordieux, certes, comme devraient l'être d'ailleurs les journalistes. Et à un moment, il y a une sorte de révélation. Vous voyez, comme cette éponge-là qui va régurgiter d'une certaine manière tout ce qui a été absorbé. Alors, c'est la révélation finale. Je ne veux pas dire que c'est la solution de l'énigme, mais cette solution de l'énigme, d'ailleurs, qui souvent, dans ces romans-là, nous apparaît un petit peu décevante. Nous avons la solution à l'énigme, mais... elle n'est pas toujours à la hauteur de la curiosité que nous avons eue à lire ce livre. Donc pour moi, Maigret et les cinq sens, c'est pour moi l'essence du journalisme.
Maigret, alors la mâche du jambon beurre, parce que c'était son plat préféré.
Oui,
quand
le
il était
demi aussi.
Le demi et le jambon beurre.
On l'entend même rôter.
Presque, dans les romans, peut-être pas, mais en tout cas, ça nous ramène un peu à la boulangerie. Et Jean-Paul Kaufmann, dans L'Accident, on apprend aussi que vous avez fait la une du journal Détective comme journaliste dans l'affaire de la malle au tout début de votre carrière, ce qui vous rapproche aussi un peu de Maigret, puisque là aussi, il y a quelque chose qui pourrait figurer dans un roman policier.
Oui, exactement. Oui, la malle, le coffre-fort du sens, comme je dis dans ce livre. C'est-à-dire,
la malle sanglante de Seclin.
La malle sanglante de Seclin. Oui, c'était un de mes premiers faits divers de journaliste. J'aimais beaucoup les faits divers lorsque j'étais journaliste, notamment au Matin de Paris. Et l'un de mes premiers faits divers, ça a été lorsque j'étais stagiaire dans le Nord. On découvre sur le canal de l'île de Seclin, une malle, et évidemment impossible de l'ouvrir, et on finit par l'ouvrir, évidemment il y avait un cadavre qui était là, et là depuis très très longtemps. Et la malle, évidemment, c'est toujours le mystère, toujours comme dans un grenier, et les malles qu'on va ouvrir avec tous ces parfums qui s'offrent à vos narines, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est mon premier fait divers, la malle sanglante de Seclin.
Jean-Paul Kaufmann, pour en revenir au sens, pour poursuivre sur le registre sensuel, vous dites que pour vous, l'écrivain le plus sensuel de tous est Claude Simon, celui qui réussit le mieux à faire ses alliances entre les sens.
Oui, certainement. Bon, pour moi, c'est un écrivain atmosphérique. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup aussi, qui parle de l'olfaction. On a parlé de Simenon, il y a aussi Mauriac, Giono, c'est des écrivains qui parlent beaucoup de... C'est très difficile de parler de l'olfaction, parce que on ne sent pas tous la même chose. On voit à peu près tous la même chose, on écoute à peu près tous la même chose. L'olfaction, c'est tout à fait différent. Et c'est vrai que dans Claude Simon, d'abord, c'est un écrivain que j'aime beaucoup parce que c'est un écrivain qui ne ressemble à nul autre, très déstabilisant, j'allais dire. Et il cite notamment ce passage de Buffon où le premier homme qui s'éveille, il touche un objet, il croit que c'est lui. Et ça, c'est absolument merveilleux. Il croit que tout l'environnement autour de lui, ça fait partie de sa propre personne. C'est véritablement un passage extraordinaire qu'il a cité. Mais dans un certain nombre de ses livres, les odeurs jouent un rôle capital. Voilà, il y a d'autres écrivains atmosphériques que j'admire quand même aussi.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Pour en revenir à l'accident et à votre enfance, Jean-Paul Kaufmann, vous posez cette question à propos de la boulangerie paternelle. Et si j'avais passé mon enfance dans une boucherie? Est-ce que finalement, votre relation au sens, à l'écriture, au journalisme, était différente? Et en ça, on a un exemple, c'est Marcel Jouandeau quand même, qui a quand même passé son enfance justement dans une boucherie. Et j'y ai pensé en vous lisant, en me disant, ah, il y aura un côté boulangerie, plutôt la douceur, la quête du monde, et puis côté Jouandeau, beaucoup plus obscur dans la boucherie, le sang et les garçons bouchers.
Oui, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est vrai que, au fond, le monde de la boulangerie, qui est le monde de la tiédeur, le cocon, quelque chose d'extrêmement rassurant, a priori n'amène pas au métier de journaliste, qu'alors que davantage la boucherie, ce monde peut-être un peu cruel, hein, le monde qui déchiquette, hein, cette odeur du sang, de la viande. Peut-être, alors je ne veux pas dire que nous amènerait plus naturellement dans le monde du journalisme où il s'agit d'assommer peut-être l'interlocuteur, je ne sais pas, pour...
Le convaincre peut-être.
Pour le convaincre. Et c'est, en tout cas, pour moi, le monde de la boulangerie a été en effet... ce monde des cinq sens, ce monde tactile aussi, ressentir... Le flair du journaliste, qui est peut-être le sixième sens, ressentir et sentir. Vous voyez, quelquefois, on est en reportage, on se dit « Oh, ça sent mauvais, hein, il faut pas rester là. » Quand on est dans des pays en guerre, ça sent mauvais. Et il y a quelque chose, l'intuition qui vous dit qu'il faut pas rester. Donc, ressentir, subodorer, sentir... Alors, je crois aussi que ces cinq sens ne doivent pas être compartimentés. Ils ne doivent pas être cloisonnés. Je crois qu'ils doivent communiquer entre eux. J'allais dire une vision, peut-être une conception un peu, holistique des cinq sens. Hein, une sorte d'unité de ces cinq sens qui sont là, justement. Et je pense que ce sens qui va les résumer, en quelque sorte, c'est l'olfaction. Mais en même temps, quand on dit que les cinq sens doivent communiquer, on parle du grain de la voix. Vous connaissez le titre fameux de Paul Claudel, « L'œil écoute ». On parle aussi dans, je sais pas moi, à l'opéra, de la coloration de la voix. Donc, vous voyez, se mettre aussi dans la peau de quelqu'un, c'est aussi le travail du journaliste. Donc, encore une fois, je pense qu'on ne parle pas assez du corps s'agissant du journalisme. Alors, il y a cette école américaine qu'on appelle la non-fiction narrative qui, peut-être, remet à l'honneur ce corps-là, le jeu, peut-être aussi. Alors que le corps, en même temps, on s'en méfie. On se méfie un peu du corps. Donc, je crois qu'il faut le réhabiliter s'agissant de ce métier.
Jean-Paul Kaufmann, justement, est-ce que c'est pas pour retrouver ce jeu que vous commencez justement l'écriture de voyage après votre libération du Liban? Si je me trompe pas, tous vos livres sont écrits à la première personne, sauf peut-être la biographie de Raymond Guérin, et encore, si aussi. Est-ce que justement vous retrouvez pas quelque chose, vous réappropriez pas votre propre corps en écrivant à la première personne quand vous vous lancez dans ces autres projets après le journalisme en quelque sorte?
Oui, certainement, oui. Mais alors, justement, le journalisme, quelquefois on dit d'un livre, je me conteste évidemment ce point de vue-là, c'est un livre de journaliste. Moi, je tiens beaucoup aussi à ce qu'on dise de ce livre, c'est un livre de journaliste, c'est un livre d'enquête. J'ai travaillé, j'ai fait mon métier de journaliste, c'est pour ça que aussi le mot d'écrivain me paraît toujours un peu grave. Des écrivains, il n'y en a pas beaucoup, hein. À mon avis. Journaliste, c'est aussi quelque chose que je revendique, et il est sûr aussi qu'aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus poreuses, j'allais dire, entre celui qui écrit, l'écrivain, l'auteur, et le journaliste. Donc, en effet, ce livre, c'est le jeu. Alors, vous allez me dire que c'est un livre aussi très, très auto-centré. Mais il faut l'assumer aussi, cette part-là. Mais un écrivain, un auteur, ça sera toujours le jeu qui l'emportera.
Oui, mais pour vous, l'accident, comme pour le lecteur, je suppose, c'est aussi quelque chose d'assez hybride. C'est-à-dire que c'est à la fois une relation à la première personne de vos mémoires, mais c'est aussi une enquête de journaliste qui permet de retrouver hein, tout ce que, justement, on ne savait pas ou vous ne saviez pas sur cette affaire de l'accident de Montigny-et-Fairchaud. Parce que c'est quand même ça le cœur du récit. Et il faut nous dire que s'est-il passé alors ce soir de 1949 où tous ces footballeurs sont morts?
Eh bien, on racontait beaucoup de choses dans mon village sur cette histoire. Alors, j'ai eu de la chance de pouvoir consulter le dossier d'instruction aux archives. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qu'on ignore. Il y a beaucoup de mystères qui entourent l'accident de Martigny-et-Fairchaud. Alors, comment ça s'est passé? Il faut quand même raconter une chose, c'est que là, on vit dans ce monde de l'après-guerre, comme je le disais tout à l'heure, un monde élémentaire, rural. Donc, une équipe de football doit aller disputer un match à l'extérieur. Évidemment, à cette époque-là, il n'y a pas d'autocar, de bus, et on va demander au maire de la commune s'il peut prêter son camion Dodge. C'est très important ce camion Dodge, car c'est un camion révolutionnaire pour l'époque, un camion du plan Marshall. Et le maire va demander à son fils, en effet, de conduire ce camion. Alors, ce fils avait-il le choix? Là aussi, c'est un des mystères de cette tragédie. Et donc, alors, la journée va se passer dans cette ville de Martigny-et-Fairchaud. Et à l'époque, évidemment, il n'y a pas d'alcoolémie. Le conducteur va boire. On ne dit pas qu'il est ivre, on dit qu'il est énervé. Et au retour, l'équipe de football a été vaincue. Elle a perdu ses deux matchs. Et il va complètement rater ce virage. Il va même pas le voir. C'est un virage en épingle à cheveux. Et toute la jeunesse de ce village, c'est-à-dire toute la jeunesse de 18 ans à environ 30 ans, vont être littéralement décapités. Donc, ça va être une histoire, elle est tellement lourde qu'on pense qu'elle n'a pas eu lieu et donc on ne va pas en parler. Donc, moi j'ai eu toute ma jeunesse un camarade dont le père... Le cousin faisait partie de ces 18 morts. Donc, encore une fois, c'était comme l'Alsace-Lorraine. Y pensait toujours, n'en parlait jamais, parce que c'était trop lourd. Et peut-être aussi qu'on était incapable de l'exprimer, de la nommer. Et les gens, à cette époque-là, peut-être, n'avaient pas une facilité à user de la parole. Et donc, c'est pour ça que je pense que cet accident fait partie aussi de l'impensé de ce village qui marque de manière extrêmement lourde, j'allais dire, l'inconscient de ce petit village de Cornu qui aujourd'hui fait partie d'une sorte de périphérie de Rennes. Oui, c'est...
Jean-Paul Kaufmann, il y a une image qui revient obsédante dans l'accident. C'est l'image de ce camion Dodge après l'accident dont on imagine que la bâche a été évidemment enlevée par la force du choc. Ce camion Dodge qui termine sa course dans un étang et donc dont l'avant est enfoncé dans l'eau mais dont les phares restent allumés. Un peu presque miraculeusement, les phares ne s'éteignent pas. Et donc, on voit hein, à travers vos yeux et votre imagination la lumière de ces phares dans l'étang, cette lumière verte, mais en même temps impossible en réalité, qui est aussi un peu une forme de, oui, presque de surnaturel dans cette mort.
Oui, vous avez tout à fait raison. Dans fin de partie, je crois que Beckett dit à un moment, un des héros dit « Il n'y a rien de plus drôle que le malheur. Il y a toujours quelque chose de comique dans le malheur. » Et en effet, ce camion piquant du nez dans l'eau, avec les phares toujours éclairés, disons que c'est l'anomalie que les gens ont retenue de ce drame. Il est là toute la nuit, les phares vont s'éteindre à l'aube, mais c'est la seule chose que les gens retiennent dans cette histoire-là, cette sorte de fantasmagorie, ce camion donc qui a raté sa course, qui pique du nez, et avec cette eau glauque éclairée, et on ne va retenir de cette histoire-là pratiquement que cette image-là. Et j'en parle évidemment beaucoup dans ce livre parce que cet accident scande en quelque sorte tout ce récit. Accident 1, accident 2, accident 3, j'ai intitulé les chapitres de cette façon-là.
Oui, justement, les chapitres sont nombreux. C'est ce qui rajoute aussi à son côté hybride au livre, entre mémoire, enquête, souvenir. Et justement, le fait que ce rythme soit finalement assez rapide ajoute aussi quelque chose à la vélocité de l'enquête, peut-être.
Alors oui, vélocité, ça c'est un compliment que vous me faites, j'espère. J'espère qu'on a peut-être envie de tourner les pages pour connaître, je ne sais pas, la fin, oui, peut-être, parce qu'évidemment, il y avait aussi un mystère, un autre mystère, qu'était devenu l'auteur de cet accident.
Le conducteur qui lui
le
survit.
Le conducteur, parce qu'il est complètement effacé dans l'histoire de notre village. Son père est le maire du village et du jour au lendemain, il va donner sa démission, il va vendre son affaire, il va quitter Cornu, et on ne sait plus ce qu'il est devenu, le père et le fils. Un jour, mon père, à Rennes, l'aperçoit à la sortie d'un cinéma, il vend des journaux. Et c'est une chute, disons, sociale énorme, un effondrement social énorme. Et le fils, on se dit, mais comment va-t-il vivre après un tel drame, comment il va faire sa vie? Alors j'ai essayé de retrouver sa trace, parce que personne ne savait ce qu'il était devenu. Et grâce à une généalogiste dont je parle dans mon livre, j'ai retrouvé sa trace, qu'il était devenu. Je l'ai sans doute d'ailleurs côtoyé, parce que j'habite une partie de ma vie à Saint-Malo. Il a vécu les dernières années de sa vie à Saint-Malo et j'ai retrouvé aussi sa fille. Alors là aussi, c'est dans ce livre-là, c'est une sorte d'apparition finale. Comment elle a vécu avec tout cela? Parce que, et c'est un peu elle, d'ailleurs, qui m'a donné l'idée de ce titre. Parce que toute son enfance, elle a entendu parler. On ne lui disait pas ce que c'était l'accident, mais qu'est-ce que c'est que l'accident? Et un jour, son père a consenti à lui dire la vérité. Elle avait une dizaine d'années, il lui a dit, bon voilà, j'ai été à l'origine de la mort de 18 personnes, j'ai fait de la prison, j'ai été jugé, etc. Et ça m'intéressait de savoir comment elle avait cohabité, elle aussi, avec quelque chose qui avait surgi dans sa vie. C'est un peu, je ne vais pas dire que c'est identique à mon histoire, mais un petit peu quand même. Vous voyez comment une histoire comme cette histoire libanaise, personne, évidemment, n'est préparé à une telle épreuve. Et elle surgit, alors peut-être un journaliste davantage. Donc, vous voyez, c'était cela aussi, peut-être, qui a fait qu'elle a accepté de me parler. Je lui dis un moment, mais vous voyez, on n'est pas... c'est des choses qui peuvent vous tomber dessus. On n'en est pas responsable. Elle était absolument pas responsable de cette tragédie qui avait été celle de son père. Donc, cette rencontre finale est très importante dans ce livre parce que c'est une sorte de conclusion de l'accident. Je la rencontre, elle vient chez moi, je l'interroge. Et je ne veux pas dire qu'on a une solution à cet accident que je raconte dans mon livre, mais quand même, un petit peu. Et j'ai voulu terminer de cette façon-là parce que je me sentais aussi quelques points communs avec elle.
Jean-Paul Kaufmann, il y a un mot qu'on ne trouve pas dans l'accident. c'est celui de destin. Le mot de destin n'y est pas. Vous ne voyez pas une forme de destinée. Au contraire, vous voyez plutôt des accidents au sens causal du terme, un enchaînement de causes qui amène à quelque chose. Mais vous ne parlez pas, en tout cas, de la destinée.
C'est vrai. Alors, je dis quand même un petit peu dans mon livre, au fond, j'ai toujours pensé que dans ma vie, toutes les péripéties de cette vie, au fond, m'entraînaient vers une pente, vers ce 22 mai 1985, jour de mon enlèvement. Comme si tout cela s'emboîtait parfaitement jusqu'à, je vais pas dire ce dénouement final, mais c'est ça aussi. C'est ce qu'invoque l'auteur de cet accident. Il dit au fond, c'est la faute à la fatalité. Hein? Mais c'est aussi mon problème à moi, parce que le problème quand on raconte une enfance, je crois qu'il y a plusieurs écueils. Le premier écueil, d'abord, c'est celui de la complaisance. Hein, cette idée selon laquelle l'enfance est un sanctuaire, une sorte d'âge d'or, une sorte d'innocence qu'il faut conserver. Je crois que la complaisance, il faut essayer de s'en garder et aussi pratiquer, j'allais dire, une forme aussi d'autocritique. Parce que c'est très difficile. Comment faire coïncider, disons, un enfant de 11 ans, comment le relier aussi à cet homme adulte, à cet homme multiple, hein, qui s'est empilé au fil des années? Comment faire coïncider tout cela? C'est aussi la difficulté que j'ai eue à écrire ce livre sur l'accident. Donc, est-ce que j'y suis parvenu? Ça, je ne sais pas.
Mais Jean-Paul Kaufmann, est-ce que vous croyez au fatum, à la fatalité, justement, comme le chauffeur de ce camion Dodge?
Un petit peu, mais est-ce qu'on est déterminé?
Est-ce que l'enfance est une source ou au contraire, est-ce que c'est une cage?
J'ai envie de dire les deux, mon capitaine, mais ça va pas nous aider beaucoup.
En tout cas, l'impression qu'on en a quand on lit l'accident, c'est qu'au contraire, tout est possible, tout est toujours possible. C'est aussi le sens de cette mixité, hybridité du texte, ces chapitres courts, et de ces va-et-vient dans le temps. C'est aussi pour nous dire que tout ça est de quelque façon indépendant, en réalité. Et que voilà, tout n'est pas forcément toujours relié d'une façon claire.
Oui, alors oui, ça a été en effet la difficulté. Je dirais aussi que la difficulté aussi, de répondre à cette question qu'on n'a peut-être pas évoquée, qui est qui sont nos parents? Qui sont nos parents? Et c'est quand même une question qui nous concerne tous. Et c'est une question aussi à laquelle on n'a pas souvent une réponse. Alors, là aussi, j'ai essayé de parler de... Est-ce qu'on peut parler de ses parents qu'une seule fois qu'ils ont disparu? Parce que c'est ça aussi le paradoxe. Je pense que une fois que le corps disparaît, je crois aussi que l'être apparaît dans son évidence, dans une sorte, j'allais dire, de luminosité. Il est évident que j'aurais été incapable d'écrire ce livre du vivant de mes parents. De toute façon, ma mère ne l'aurait pas supporté. Elle aurait été extrêmement mécontente, comme elle a été mécontente. Elle m'avait juré, d'ailleurs, de ne pas faire de discours le jour de son enterrement. Et je ne lui ai pas promis, d'ailleurs, et évidemment, j'ai trahi d'une certaine manière sa promesse en justement posant la question qui était ma mère. C'était quelqu'un, et je crois que j'ai choqué beaucoup de monde dans l'assistance. Parce que poser cette question, d'une certaine manière, ne pas savoir qui est sa mère, au fond, ça veut dire qu'on ne sait pas qui elle était, qu'on n'aimait pas peut-être aussi, de dire qu'elle était insaisissable. C'est quelque chose, me semble-t-il, qui est grave. Alors, il était plus facile pour moi de répondre à cette question s'agissant de mon père, qui était un être plus lisible. Et voilà, est-ce qu'on ne peut parler de ses parents qu'une fois qu'ils sont morts? C'est la question que je pose aussi dans ce livre-là.
Une autre question que vous posez, ou plutôt c'est moi qui la pose, vous écrivez, Jean-Paul Kaufmann, pour peut-être avant de se quitter, un dernier point, qu'il faut pousser à bout les lieux tragiques, Longwood, à Sainte-Hélène, Hello, pour les faire avouer. Mais les faire avouer quoi?
Et retrouver, je crois que...
Le lieu tragique, c'est vraiment quelque chose qui est là dans l'accident.
Il y a toujours les faire avouer, parce que je crois beaucoup à la trace. Il y a toujours quelque chose qui la trace. Et je dirais que les livres que j'ai écrits, je pense que c'est une sorte de puzzle où il y a toujours la pièce manquante. Alors, la pièce manquante, justement, dans ces lieux tragiques, comment les faire avouer? C'est-à-dire que je pense qu'il y a des moments, des moments très forts, des moments dramatiques, où l'histoire déborde, puis elle s'est retirée. Et alors, comment on appelle ça quand la mère s'est retirée? L'estran. Et justement, ce que j'essaie de décrire, c'est l'estran, cette partie encore humectée du souvenir, de la trace. Qu'est-ce qu'il en reste? Parce que je crois, en effet, que les lieux parlent toujours. Vous voyez, quand je suis allé à Sainte-Hélène, je pense que cette maison de Longwood, dans les murs de cette maison où Napoléon a été prisonnier, je pense que il y a quelque chose qui est enfermé et qui nous parle. Alors, ça veut dire qu'on croit à quelque chose qui ressemble au fantôme, peut-être, mais c'est ça aussi un livre, c'est croire au fantôme. Et dans Hello, quel est le fantôme que j'essaie de ressusciter, par exemple? C'est quelqu'un qui n'a pas existé et qui est pourtant un héros de la bataille d'Hello, c'est le colonel Chabert, qui est une figure inventée par Balzac. Donc, vous voyez, ça, faire avouer ces lieux-là, c'est essayer de retrouver la pièce manquante du puzzle.
Merci beaucoup Jean-Paul Kaufmann de nous avoir rejoints dans la conversation littéraire. Merci. Le récit L'Accident est paru aux éditions des Équateurs. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Cédric Chatelus à la technique aujourd'hui. La préparation en est assurée par Aurélie Marseille. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Mais d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et le site web de France Culture. Bonne lecture et bon week-end sur France Culture.